Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, c'est le titre de la série, mais c'est surtout le titre de cet ouvrage que je vous invite à lire, chers auditeurs de nos radios chrétiennes. Il est paru aux éditions MAM, avec un peu un sous-titre, une personne ne doit mourir seule. Sans plus tarder, je vous salue, monsieur Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour à tous, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez rencontré, qu'est-ce que vous avez entendu de ces soignants professionnels, parfois bénévoles, monsieur Poisson?
La première chose que j'ai entendue, c'est avec une espèce d'émerveillement, des personnes qui parlent de leur métier, de leur activité, parfois c'est leur métier, d'une manière telle que c'est comme quand on était enfant, qu'on entendait parler à un médecin ou un pompier, on se disait je veux faire ça. Il y a quelque chose d'appétissant, si je puis dire, dans la pratique des soins palliatifs. Il y a une telle humanité, une telle générosité, une telle patience, une telle inventivité. Il y a tellement de choses qu'on voudrait voir se déployer partout dans la société. En réalité, c'est presque un modèle pour les relations humaines, les soins palliatifs, quand on y pense, quand on s'arrête un peu sur ce que veut dire, sur ce que signifie cette pratique-là. Et j'ai vu des personnes qui étaient admirables, dévouées. Et c'est l'humilité qui m'a le plus frappé. Parce qu'il y a cette volonté de prendre, d'une certaine manière, prendre le patient tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on abandonne tout, on se concentre sur lui que lui. C'est lui qui rythme les soins, la nature des soins, le contenu des soins ou de l'accompagnement. C'est lui qui donne, c'est lui le patron, en fait, le patient.
D'où l'humilité du soignant.
Oui, si fragile qu'il soit, si dégradé qu'il soit, c'est lui qui commande. Ça, il y a quelque chose de mystérieux dans cette affaire, quand même. Et c'est pour ça qu'un des enseignements des soins palliatifs, c'est oui, la fragilité est une valeur. La vulnérabilité est une valeur. C'est très, très antithétique. C'est très contraire à ce qu'on vit dans le monde moderne, en réalité. Et c'est admirable.
Alors, redonnez très vite pour les auditeurs et auditrices qui vous écoutent aujourd'hui, maintenant, et qui vous suivront, je l'espère, toute cette semaine, la définition exacte des soins palliatifs.
Alors, une définition exacte, ils la trouveront un peu partout, hein, sur le site du ministère de la Santé ou sur le site de l'Association française des soins palliatifs. C'est un ensemble, c'est un accompagnement qui est procuré aux personnes pour qui tous les traitements médicaux ont échoué. Donc ça s'adresse à des personnes dont on sait qu'elles vont disparaître.
Donc c'est la fin de vie.
C'est ça, on est
maladie
en fin de vie.
Maladie incurable.
Alors oui, ou en tout cas échec définitif de tous les traitements médicaux. On sait que les personnes à qui ça s'adresse ne pourront pas guérir. Et que elles vont s'en aller dans un futur proche. Et donc c'est un ensemble à la fois de soins, de traitements et d'accompagnement de toute nature, culturel, psychologique, social, affectif, spirituel, enfin on peut tout imaginer, qui n'a qu'un seul but, c'est de faire en sorte que les derniers instants de la vie soient les plus confortables, les plus dignes, les plus valorisants, les plus libres possibles, quel que soit l'état du patient.
Vous parlez de liberté.
Je parle de liberté, bien sûr, mais aucun sujet humain n'est jamais privé de sa liberté de manière mystérieuse. On ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. Combien de gens qui ont été dans le coma nous expliquent qu'en fait, ils entendaient tout, et même si, quand on entend tout, que la conscience fonctionne, même si les sens ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'on a encore une liberté spirituelle qui... C'est mystérieux, tout ça, faut faire attention, il faut toucher à ça de manière...
Donc, finalement, on approche de ce mystère de la vie, et peut-être du mystère aussi du début de la création, hein, de l'humain, hein,
oui, oui,
si on voulait aller plus loin.
Ouais. Oui, certainement, mais il y a quelque chose que met en commun, résumé. Comme une forme de résumé de l'existence dans cette situation. On touche du doigt l'essence même de l'humanité. C'est pour ça que ça en fait un épisode particulier. Si particulier, et puis alors on sait sur quoi, c'est sur quoi ça s'ouvre. Oui, on sait à peu près sur quoi ça s'ouvre. Ça peut prendre du temps, mais l'éternité est devant nous. Et évidemment, comme l'éternité devant nous, c'est le choix radical de l'existence, ma foi, on...
Permettez-moi, j'ai presque envie de réagir, puisque nous sommes sur cette thématique de la semaine autour des soins palliatifs, donc cette fin de vie qui est de l'ordre aussi de cette finalité dans l'humain. Est-ce que ces soins palliatifs, cette fin de vie, et dans votre engagement vous-même en tant que politique, monsieur Poisson, c'est une manière aussi, dans votre engagement, d'accompagner cette humanité, cette création qui est belle, qui est grande, mais qui est aujourd'hui dans notre société, nos sociétés, peut-être particulièrement aussi en France, fragilisée par de nombreuses lois sociétales.
Bien sûr que oui. Je dirais que la raison de cet engagement, c'est la volonté constante chez moi d'essayer de rappeler à mes contemporains que l'homme est un être d'une valeur tout à fait éminente et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et ça commence avec la conception d'embryon et ça se termine avec la mort naturelle sur son lit de mort. Quand on peut aller jusqu'à la mort naturelle sur son lit de mort, ce qui évidemment n'est pas le cas de beaucoup de nos contemporains. Mais c'est vrai aussi sur le champ social. Moi qui suis un ancien DRH d'industrie et patron de cabinet de conseil, j'ai essayé, en travaillant dans le monde économique, de faire comprendre que le respect des conditions de travail a du sens, que les risques psychosociaux, le burn-out et la dépression au travail, ça existe, que vous ne pouvez pas traiter les gens comme des marchandises et des objets de tableau de bord. Enfin, tout ça, c'est le même combat. Si vous respectez l'homme, vous respectez l'intégrité de son corps et vous lui procurez des conditions d'existence qui soient dignes. Et les deux sont liés. C'est indissociable. C'est ça le message chrétien, au fond. Enfin, c'est pas que le message chrétien, ça devrait être un message de bon sens. Et les soins palliatifs sont l'incarnation de cette exigence, consiste à dire, plutôt que de rompre brutalement une existence qui ne vous appartient pas, même à la demande de celui qui voudrait la rompre, essayez de trouver les moyens. Ils existent maintenant, on les a. Il y a 40, 50, 60, 80 ans, probablement que ça existait beaucoup moins ou peu ou pas. Puis on avait un rapport à la douleur qui n'était pas du tout le même non plus. Mais là, il y a tous les moyens pour accompagner les gens de manière digne. Voilà, dites aux gens qui sont en train de mourir qu'ils ont encore de la valeur et que la dernière seconde de leur existence, ils sont pleinement dépositaires de toute la dignité qui les a accompagnés pendant toute leur existence, jusqu'à la dernière seconde. Et donc ils méritent notre attention.
Ils sont vivants jusqu'à la dernière seconde. Ah oui. Ça, c'est aussi important.
Bien sûr.
Même au cœur même de ces soins palliatifs où on accompagne une fin de vie.
Bien sûr.
La vie est présente jusqu'au bout.
Et c'est très bien sûr. Et c'est très important d'avoir en tête que les soins palliatifs, la pratique des soins palliatifs, c'est comme si le corps social dans son ensemble se mettait au pied du lit de celui qui est en train de partir. Tout le monde est là. On passe du temps, le temps qu'il faut. Pardon, il y a des bénévoles, des professionnels de santé, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychologues, des infirmiers, des médecins, des comédiens, je ne sais pas qui, il y a plein de gens. Plein de gens. Et tout le monde vient là parce qu'on accompagne, comme dans un certain nombre de cultures anciennes d'ailleurs, on accompagne le mourant pour son dernier mois, avant qu'il parte. C'est magnifique.
Alors,
il faut que ça se sache, parce que les gens ne savent pas que ça existe.
Alors pourquoi se taire, hein?
Pourquoi?
Pourquoi on se tait?
Ouf, alors là. D'abord, c'est plus facile. D'une certaine façon. C'est d'une certaine façon plus facile.
C'est éviter l'enjeu quand même du combat.
Oui.
Parce que vous parlez au fond, on parle de mort, on parle de soins palliatifs, mais on parle de cette humanité.
Bien sûr.
Qui touche l'homme. Hein. Et vous avez parlé de ces débuts de vie, dès le moment de la conception jusqu'à ce dernier moment de vie. N'est-il pas l'enjeu de notre humanité, au fond ?
Qu'on soit croyant ou non, on constate quand même dans l'histoire cette propension de l'humanité à se diviser en deux catégories. Les dominants et les dominés. Par hypothèse, les premiers sont plus nombreux que les seconds. Font moins nombreux que les seconds. Et le grand combat, parmi les grands combats liés à la condition humaine, il y a le point de savoir si on est d'accord pour dire que la dignité humaine s'envisage sans condition, sans exception et sans restriction. Dès que vous mettez un coin dans un de ces trois termes, alors vous commencez à couper l'humanité en deux et vous justifiez la domination des uns sur les autres. Vous pouvez le faire pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons culturelles, ethniques. Il y a 150 motifs, l'histoire malheureusement regorge d'exemples. Mais vous pouvez le faire aussi pour des raisons spirituelles. Parce que quand on est croyant, chrétien, on sait que la bagarre entre les anges du bon Dieu et les anges du malin, ça n'est pas une fable. Ça existe. C'est tous les instants de la création. Et que malheureusement, il y a sur notre terre des gens qui sont mal inspirés au sens strict de ces deux termes. et qui ne veulent pas entendre parler, de la même manière que les anges, si on en croit en tout cas le récit de la chute des anges à la création, après leur création, il y a des anges qui inspirent le fait qu'on doit se détourner de Dieu, et se détourner de Dieu veut dire ne pas accepter que l'homme soit respectable, quoi qu'il en soit. Il y a ce combat spirituel derrière tout ça. Et au fond, tous les combats sur la vie, le rejet de l'ordre naturel. Pourquoi rejette-t-on l'ordre naturel ? Parce que c'est pas l'homme qui le fait. C'est la trace de Dieu dans le monde, l'ordre naturel. Donc dans ce combat spirituel, il y a aussi la volonté de s'affranchir de cet ordre, pour bien montrer que c'est l'homme qui est le patron et c'est pas quelqu'un d'autre que lui. C'est tout ça, les enjeux qui sont derrière ces combats, c'est pour ça que c'est si difficile.
Donc au fond, on parle d'un enjeu qui est aussi de l'ordre un peu de l'invisible et d'une bataille qui est de l'ordre, puisque vous parlez spirituel, cet invisible et ce visible sur cette terre. Est-ce que nous sommes dans une période, et puis on va en parler si vous le voulez bien, parce que vous n'aurez pas le temps d'y répondre, mais c'est la question que je vous pose maintenant, et puis les auditeurs pourront écouter donc votre réponse dès demain à la même heure. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans ce troisième millénaire avec toutes ces lois sociétales et puis notre humanité dans un de ces grands combats, non pas de la fin du monde, mais peut-être d'une fin des temps, Monsieur Poisson. Voilà, on se donne rendez-vous demain. Et puis
avec
je
plaisir.
Rappelle que les auditeurs qui vous écoutent peuvent eux-mêmes devenir lecteurs. Et, donc j'ai lu votre livre et je vous invite, chers auditeurs, à le lire vous-même et puis peut-être aussi à l'offrir autour de vous. Ça parle des soins palliatifs et ça montre bien aussi, et c'est le titre du livre, « Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie ». Ce livre montre bien combien ces soins palliatifs sont réellement une clé pour terminer ce voyage le plus paisiblement possible sur cette terre. À demain et merci.